Conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 13 mai 1993.
Quelques petites questions. Ne serait-il pas plus juste de formuler la promesse de profession en disant qu'on a l'intention de vivre les trois vœux, plutôt que de promettre de les vivre effectivement, en sachant qu'on ne réussira pas? Eh bien, on sait qu'on réussira avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas au niveau de l'intention. Elle est au niveau de l'intention, mais elle est au niveau de l'impérium aussi. Vous voyez ? Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu sait bien que nous avons l'intention profonde de vivre en enfant de Dieu, que nous faisons tout ce que nous pouvons pour ça. On tend vers la perfection. On ne fait pas des vœux pour être parfait. On fait des vœux pour tendre vers la perfection. C'est impliquer l'aspect intention comme la chose principale. C'est une intention de vie, mais qui va jusqu'à l'efficacité. Parce que ce serait, j'allais dire, trop simple de dire j'ai l'intention de vivre, mais je sais d'avance que je n'arriverai pas. Non, non. J'ai l'intention et je veux me convertir. Les vœux impliquent une conversion, pas seulement l'intention. Une conversion de vie. Alors, c'est sûr que c'est pour ça que les constitutions, vous voyez, n'obligent pas à se mettre de péché. Et c'est vrai. Non, le silence le matin que demandent les constitutions, c'est pas se mettre de péché. Le coucher de après qu'on oublie, garder le plus grand silence. Sauf si on attend au Père Maître et aux prières générales. Alors on parle chez eux jusqu'aux 11h du soir. Ça c'est permis. Parce que c'est le seul moment où on peut les voir. Donc c'est permis. Mais on n'aurait pas le droit de faire ça avec quelqu'un d'autre. On a le droit pour aller se confesser, oui. Se confesser, ce n'est pas bavarder. C'est ce qu'on faisait. Alors, vous voyez, je vois très bien que c'est quand même, on a l'intention de vivre comme c'est divin, comme c'est au niveau des vertus théologales. L'intention implique un choix. L'analyse qu'on fait est une analyse au niveau du conditionnement humain. Dès qu'on prend l'exercice vertu théologal et de la charité, l'intention implique un choix. Et implique l'impérium. C'est le premier vertu théologal. Donc, la formule des vœux est bien. Je vous rassure, elle est bien. Elle est ce qu'elle doit être. N'écrivez pas à Rome pour dire que la communauté Saint-Jean demande que... Ce ne serait pas très bien vu. Mais ici, vous avez le droit de mettre tout ce qui, pour vous, est un petit problème. Dans la lumière de l'esprit de virginité, de l'ordre entre la charité à l'égard de Dieu et de la charité fraternelle. Peut-on se servir pour éclairer cet ordre de la distinction entre fin ultime et fin intermédiaire? Cependant, le mystère de la charité n'est-il pas toujours ultime? Est-ce alors aimer le prochain de charité divine que si on aime déjà Dieu de charité divine. Contrairement à ce que certains disent, j'ai déjà entendu ça. Moi, je dis toujours, j'aime le prochain de charité divine parce que j'aime le Christ. Et il y en a qui me disent, moi, j'aime le Christ parce que j'aime le prochain. J'ai entendu ça. Alors j'ai dit, vous avez bien de la chance. Parce que si vous aimez le prochain de charité divine, tout de suite, et que grâce au prochain, vous aimez le Christ, vous avez bien de la chance. La vie commune est supportable grâce à la contemplation. Mettez des gens qui ne sont pas du tout contemplatifs à vivre ensemble en vie commune. Vous verrez ce que c'est.
On ne s'est pas choisi. C'est Dieu qui a choisi.
Saint-Brieuc, voix de Dieu. Et c'est vrai que c'est curieux, le choix de Dieu. Vous savez bien ce rêve du Père Emmanuel, qui est tellement joli et qui montre bien ce que c'est. Ce rêve du Père Emmanuel, à la fin de sa vie, il rêve et puis il voit qu'il n'y avait pas beaucoup de vocation d'ermite. Alors Dieu lui présente des religieuses, des jeunes filles qui viennent le frapper à sa porte en disant qu'elles désirent être ermites. Et Dieu dit au Père Emmanuel, choisissez. Choisis. Puis après, c'est des garçons. Et des religieux, choisis. Alors il fait grande attention. Je regarde, oh là 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 là. Puis remercie beaucoup. Quand Jésus, après avoir choisi, Jésus lui dit simplement, je prendrai le reste. C'est magnifique. Je crois que c'est un vrai rêve qu'il a eu. Je trouve ça magnifique, quoi. Parce que ça illustre exactement ce que c'est que la charité fraternelle. Négativement. Quand quelqu'un vient se présenter, frapper à la porte en disant ce que je pourrais, mais je ne vais pas porter mon jugement, mais j'écoute comment Dieu l'a appelé. Et uniquement ça. Et nous aujourd'hui, allez voir le psychologue. Et c'est pas étonnant que les vocations tarissent. Comment voulez-vous que Dieu se soumette à ça? S'il y a eu des difficultés, si quelqu'un a eu, pendant sa vie, a été obligé de se soigner au point de vue de son équilibre psychologique, on peut comprendre qu'on demande est-ce que vous êtes suffisamment guéri? Et ceci dans son intérêt. Pour qu'il ne retombe pas. Mais quelqu'un qui n'a, grâce à Dieu, a échappé à la psychanalyse ou à la psychiatrie, on ne va pas l'envoyer au médecin. Première visite à un psychiatre, pas seulement l'armée, mais entrer dans la légion étrangère de la vie religieuse. On n'en voit pas, non. On écoute la manière dont Dieu l'a conduit à Saint-Jean. Et on essaie de comprendre si cette conduite semble bien divine. Et la manière dont il a réagi. Le passé, c'est le passé. La santé, c'est la santé. La vocation, elle n'est pas dans la santé. Il y a des gens qui ont beaucoup de santé qui n'ont pas la vocation. Et il y en a qui ont peu de santé qui ont la vocation. Le critère, c'est pas ça. L'équilibre psychologique, c'est pas ça non plus. On comprend très bien ça. Et c'est un fait. C'est que les vocations ont tari à partir de ce jour-là. Exactement comme on l'a dit par rapport à Lourdes. Les médecins décrètent très bien l'église seulement, je respecte, mais je comprends très bien que la pauvre Vierge Marie dit je ne fais pas ça pour les médecins, je fais ça pour le peuple de Dieu. Alors elle envoie des charismatiques, et les charismatiques ne demandent pas aux médecins de venir voir si c'est bien un miracle ou pas. Vous voyez ça? Avec Tardif, si on faisait ça, si Tardif avait avec lui 5 médecins qui venaient dire ça, non, pas du tout. Le père Tardif prie le Seigneur, et puis c'est tout. Il peut se tromper, ça n'a pas d'importance. Il faut tarir à la source. Alors, comprenons bien, la charité fraternelle et la charité part de Dieu au même objet. Deux exercices différents. Et on voit tout de suite deux exercices différents, puisque aimer Dieu de charité divine implique l'adoration. Aimer son prochain de charité fraternelle n'implique pas l'adoration. Je t'aime de charité fraternelle, donc je t'adore. Ah non. La petite tentation. Genre dans l'Apocalypse. La petite tentation. Je t'aime tellement que je t'adore. Non, on n'adore que Dieu. Et ce qui montre tout de suite que la charité à l'égard de Dieu a un enracinement très particulier en nous, dans son exercice, tout à fait différent que la charité fraternelle. Ceci, c'est net. Il y a un ordre, il y a deux exercices différents. Alors, peut-on se servir pour éclairer cet ordre de la distinction entre fin ultime et fin intermédiaire? Non. Parce que fin ultime et fin intermédiaire portent au point de vue spécification. C'est un bien utile. Or, la charité fraternelle n'est pas un bien utile. Et c'est pour ça qu'il est dit tout de suite après. Cependant, le mystère de la charité n'est-il pas toujours ultime? D'accord. Est-ce alors au niveau de l'exercice? Oui. Au niveau de l'exercice. Au niveau de l'exercice, c'est tout autre. Puisque l'un applique l'adoration et l'autre non. Donc vous voyez tout de suite que c'est tout autre. Mais au point de vue de l'objet, c'est le même. Il y a un absolu dans la charité fraternelle. Il y a un absolu. On doit être capable de donner sa vie pour son prochain. Et c'est ce que font des quantités de religieux et de religieuses et d'infirmières qui donnent leur vie en soignant des malades et qui attrapent la maladie et qui meurent. Ils donnent leur vie. Et ça, c'est la miséricorde de la charité fraternelle. On attrape moins de maladies quand on adore Dieu. Tandis qu'au contraire, soigner le prochain, c'est toujours. Et puis, comprenez que quand on adore Dieu, Dieu est toujours de bonne humeur. Tandis que le prochain qu'on essaie d'aimer n'est pas toujours de bonne humeur. On essaie de l'aimer, de lui faire le plus grand sourire. Alors dites-vous bien que lorsque le prochain ne répond pas, le Christ répond à sa place. Ça, c'est très très important de se rappeler ça. Ce qui fait qu'on se décourage jamais. On fait une charité fraternelle merveilleuse à tel ou tel, il peut enfoncer le poignard par derrière. Métaphoriquement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous s'ouvrez à quelqu'un, il demande d'entrer dans la congrégation, on essaie de prier, puis il semble bientôt le voir. Au bout de 6 mois, il s'en va, il raconte des tas d'histoires selon la manière dont il a vécu. Le coup de poignard dans le dos. Il y a un risque. Vous voyez, s'il fallait éprouver chacun avant de le recevoir dans la. Ce serait pas du reste charitable, ce serait pas la charité de Dieu. Viens, suis-moi. Je sais bien que Jésus avait la connaissance infuse. Mais nous devons avoir cet accueil. On n'a pas un a priori négatif. On a un a priori positif. Quelqu'un vient frapper à la porte du couvent pour entrer. On a un a priori positif. Pas négatif. Parce qu'on ne peut pas avoir d'a priori négatif dans la charité fraternelle. On aime l'autre dans la lumière du Christ. Ça, c'est pas négatif du tout, c'est très positif. Alors, dans la lumière, voyez, dans la lumière de l'esprit de virginité, l'exercice de la charité fraternelle est tout imprégné de l'esprit de virginité. Je n'aime pas de la même façon, si je suis consacré à Dieu, mon prochain, que quelqu'un qui n'est pas consacré à Dieu et qui aime son prochain. Je crois que je retrouve le texte de Saint Basile pour vous le lire, qui est si beau, sur l'esprit de virginité, et de montrer que l'esprit de virginité pénètre toute notre sensibilité, toute notre affectivité, et que l'esprit de virginité implique une certaine pudeur dans la sensibilité, et qu'on maintient cette pudeur dans la sensibilité en tant que l'esprit de virginité. C'est plus une question de faute, de péché, c'est une question de connaturalité à l'égard de l'Esprit Saint, de connaturalité à l'égard du Christ. On veut aimer le prochain comme le Christ l'aime. Il y a quelque chose qui me semble très important à bien voir, et c'est justement cela qu'on me demande un tout petit peu de développer, c'est la troisième note, dans l'esprit de virginité, ce que j'ai commencé la fois dernière, mais on avait simplement, il y avait certains autres aspects, vous avez dit, n'hésitez pas à poser vos questions, alors on me les pose, et c'est bien, parce que c'est vrai, nous devons pouvoir creuser d'un point de vue théologal l'esprit de virginité. C'est pas suffisant, vous voyez, de regarder l'aspect canonique des vœux. Il y a un aspect beaucoup plus profond, puisque par les vœux, nous essayons de connaturaliser notre cœur au cœur de Jésus, au cœur de Marie. Et donc nous essayons de comprendre quel est l'esprit de virginité du Christ. Jésus a vécu d'un esprit de virginité. Ça, c'est sûr. Comme Marie. Et c'est très difficile dans notre monde d'aujourd'hui de vivre de cet esprit de virginité, parce que tout le climat du monde d'aujourd'hui supprime la pudeur. La pudeur est une vertu qui est là pour être la défense, c'est-à-dire la défense, vous voyez dans quel sens je veux dire, fortifier à l'égard de l'esprit de virginité dans nos relations mutuelles d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs. Il est normal que le lien des frères et des sœurs, puisqu'ils sont liés dans la charité fraternelle, selon un exercice sous la mouvance de l'esprit de virginité, il est normal que les relations entre frères et sœurs ne sont pas des relations familiale, de la famille, selon la chair et le sang. Nos sœurs sont nos sœurs dans le Christ et en Marie, et non pas selon la chair et le sang. Mais ce qui implique qu'on ait entre nous un très grand respect. Oui, c'est la pudeur joue au niveau du respect de l'autre et du respect de la sensibilité de l'autre et d'une sensibilité virginale, c'est-à-dire une sensibilité qui est tout entière tournée vers Jésus. Une sensibilité qui progressivement fait que tout en nous soit tourné vers le Christ pour que nous puissions vivre livre de ce qu'il vit, pour que nous puissions entendre d'une manière virginale les paroles de Jésus. Quelque chose de spécial, très difficile du reste à préciser. Mais dans le regard, c'est Saint Basile qui dit ça, dans le regard, dans les gestes, dans les paroles, dans la manière de parler. Et ceci, c'est l'Esprit Saint qui nous éduque. Et c'est aussi les instruments de Dieu qui peuvent nous aider. Mais c'est toute une pédagogie divine qui est tout à fait propre à la vie religieuse. Et qu'en dehors de la vie religieuse, on a beaucoup, beaucoup de peine à comprendre. Vous savez bien, si on peut le dire, on sait les mœurs ecclésiastiques après un bon repas. Et il y a des mœurs semblables aussi à l'égard des saintes personnes. Qui sont les personnes d'œuvre. Il y a une manière de parler, une manière de se tenir, une manière d'être. Qui fait que quand on est seul religieux, au milieu d'une telle assemblée, on est gêné. On sent que c'est pas la même note. Et si, entre religieux, on retrouve des mœurs ecclésiastiques. Entre prêtres. C'est ça, les mœurs ecclésiastiques. Le religieux disparaît. Et il n'y a plus que la grosse détente. C'est ce que le Père Forestier soulignait, je me souviens, c'était très bon. Au moment où on se demandait si entre religieux on devait se tutoyer ou se vouvoyer, les pères jésuites avaient commencé de se tutoyer et les dominicains se demandaient s'ils devaient, parce que de mon temps on se vouvoyait. Même entre frères, c'est un petit peu exagéré. C'est comme ça. Alors à ce moment-là, il y avait au chapitre des tas de discussions. Alors le Père Forestier est arrivé un beau jour. Donc le grand scout devant l'Éternel. Le Père Forestier est arrivé un jour en disant: oui, vous discutez beaucoup. Et bien je vous raconte une petite histoire. À Lourdes, la Vierge Marie dit à Bernadette: auriez-vous la bonté de venir demain à la même heure? Bernadette va trouver le curé de Lourdes et lui raconte ce qui s'est passé. Et le curé dit: alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Les mœurs ecclésiastiques, oui, on pourrait dire les mœurs du sacristain, la géniflexion du sacristain, c'est dans le Saint-Sacrement. Il faut tous avoir vu ça dans sa vie, ça reste un vrai coup. Alors, on voit tout de suite. Et on comprend ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait partie de l'éducation. Alors, il faut comprendre qu'il y a l'esprit de virginité implique l'habit religieux. Ça, j'en suis sûr. Et c'est très souvent parce qu'on ne veut pas que l'esprit de virginité transforme nos paroles, nos gestes, notre manière de se tenir. Même en promenade, puisqu'il y a un repas en promenade. Étante, et très vite, vous savez, le vieil homme, il revient très vite, parce qu'il n'est jamais mort, jamais mort. Par rapport à l'adoration. une note très particulière. Faire de nous des mendiants du cœur de Jésus. On n'a aucun droit, et l'amour, on le reçoit toujours dans une attitude de pauvreté, ce qui fait que l'esprit de virginité maintient en nous le sens que l'oraison, c'est de la gratuité pure. On n'a aucun droit. C'est une gratuité absolue, comme la contemplation. Et on vit dans cette gratuité. Vous voyez, je crois qu'on pourrait dire, comprenez bien, la pudeur dans l'exercice de la charité fraternelle provient de l'esprit de virginité. La gratuité dans le mystère de l'oraison et de la contemplation maintient un exercice sous l'emprise de l'esprit de virginité dans l'oraison, dans l'oraison et dans l'adoration. Ça nous est donné gratuitement. On ne met pas la main dessus. On n'en fait pas sa propriété. Le danger est de certaines méthodes d'oraison. C'est un danger. Parce que grâce à la méthode, on possède. On a un droit de propriété. C'est pour ça que il y a des méthodes de méditation. Et je ne crois pas qu'il y a des méthodes d'oraison. Parce que c'est la pauvreté et l'esprit de virginité qui font de nous des mendiants du cœur de Jésus. On est tout entier tourné vers le cœur du Christ, sachant qu'on n'a aucun droit. L'esprit de virginité va donc mettre dans toute notre vie d'oraison, dans toute notre vie de contemplation, cette note de celui qui a toujours plus soif. Donc ça supprime toutes sortes de pharisaïsmes où l'on croit avoir des droits, où l'on se gonfle un peu de toutes les grâces reçues. Oubliant que c'est une grâce donnée gratuitement et que par le fait même on n'a aucun droit. Vois très bien le manque d'esprit de virginité dans ce chapitre 6 que nous avons lu dans Saint Jean. Maître, où es-tu arrivé? Comment es-tu arrivé là? On donne un petit commandement au Seigneur. Et on veut savoir son itinéraire. Et ça va très loin, vous savez, cet esprit de virginité par rapport à la contemplation. Il y a une petite remarque de saint Thomas que je crois très, très significative. Saint Thomas dit qu'on ne peut maintenir l'esprit de virginité que s'il y a contemplation. Seule la vie contemplative permet de maintenir en nous l'esprit de virginité. Et donc, dès qu'il y a des faiblesses de ce côté, c'est presque toujours parce que le désir de contemplation n'est plus aussi intense. Alors je crois qu'on pourrait dire l'inverse aussi. L'esprit de virginité maintient la contemplation. Mais c'est réciproque. Et ce sera intéressant de voir réciprocité. La contemplation donne un sens à la virginité. Ça, c'est sûr. Un sens. Puisque l'esprit de virginité ne peut avoir qu'un sens divin. L'esprit de virginité, c'est parce que Dieu est amour dans tout ce qu'il est. L'esprit de virginité, c'est qu'on ne partage pas à l'égard de Dieu. On partage à l'égard du prochain, mais pas à l'égard de Dieu. Le partage n'est pas un absolu. Puisqu'à l'égard de Dieu, on donne tout. Et on doit tout donner. Et donc, l'esprit de virginité maintient cet absolu de la contemplation. Et la contemplation maintient l'esprit de virginité en lui donnant un sens nouveau d'amour. Dire que l'esprit de virginité va maintenir en nous toutes les exigences d'une recherche de la vérité. Pour ne pas ternir en nous notre soif de vérité. Et même attire en nous quelque chose de très simple et de très absolu. Enfin, je crois qu'on peut regarder l'esprit de virginité par rapport à notre propre corps. Par rapport à notre santé. Ça touche évidemment très fort la pauvreté. Mais il y a une répercussion entre les deux. Aimer divinement son corps, comme Jésus l'aime. Toute la considération du corps au niveau chrétien, au niveau mystique, c'est Dieu nous l'a donné pour que nous puissions notre offrande et vivre d'un état de sacrifice, offrir sa vie, offrir son corps. Un pur esprit ne peut pas le faire, et donc c'est la spécialité de l'homme. Dieu l'a créé pour cela. Et c'est vrai, l'esprit de virginité est propre à l'homme et tout spécialement à la femme. Ça n'existe pas chez les anges. Tandis qu'il existe pour nous au niveau surnaturel, au niveau divin, au niveau humain, c'est très délicat. Au niveau religieux, oui. Stade pour Dieu, par rapport à Dieu. Mais c'est très délicat, c'est très difficile. C'est surtout avec le point de vue chrétien du Verbe devenu chair que la chair transformée par Dieu réclame l'esprit de virginité sous le souffle de l'Esprit Saint. Et cet esprit de virginité va donc transformer tout nous-mêmes. Et va nous réclamer de nous une attitude beaucoup plus intérieure. Alors c'est peut-être en définitive ça qui caractérise l'esprit de virginité. Notre corps nous extériorise. Notre sensibilité nous extériorise. À cause du corps, l'apparaître, très souvent, passe devant. L'esprit de virginité va nous ramener toujours à la source. C'est la source qui est virginale. Elle n'est pas encore ternie. Et l'esprit de virginité nous donne cet esprit d'intériorité. Exprime dans l'amour. Ce qu'il y a de plus beau dans l'amour, c'est l'intériorité. Et cette intériorité amène ce sens qu'on ne peut vivre pleinement. Cet esprit de virginité que si on est seul avec Dieu. On aura besoin de longs contacts seul avec Dieu. Oui, donc c'est cette intériorité.